Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la JT du local. Nous sommes aujourd'hui le mardi 24 mai, deuxième jour de cette semaine un peu spéciale hein, avec le pont de l'Ascension. En tout cas, on va vous faire vivre comme d'habitude l'actualité en Mayenne par ses acteurs, par ceux qui la font vivre avec plusieurs sons encore aujourd'hui et toujours aux manettes de cette émission avec Andy. Salut Andy.
Salut Marie, comment ça va?
Très bien. Et toi, pour cette nouvelle semaine où ça y est, on peut discuter. Hein.
Ça
a été
va,
un peu compliqué hier,
quand
mais
on peut se dire bonjour, c'est un peu mieux.
C'est ça. Forcément, c'est plus agréable aussi pour nous. Et d'ailleurs, c'est toi qui as fait le reportage. Tu as rencontré Laurent Léry, le président du Stade Lavallois, pour nous parler mercato et saison prochaine.
Tout à fait, tout à fait. Je l'ai rencontré et on a pu discuter de ce qui va se passer cet été et les impacts financiers mais aussi sportifs de la montée en Ligue 2 du Stade Lavallois.
Ah oui, de cette montée en Ligue 2, on le sait, qui a été très largement fêtée il y a quelques jours de ça. On va aussi parler de cette vélo-fourchette organisée par le Sivambio 53 dans différentes fermes mayonnaises. Elle a découvert ses fromages mayonnais, mais aussi de ses bières et de ses cidres. Ça a commencé il y a déjà quelques jours et ça va se poursuivre jusqu'à mi-juin. Et on est d'ailleurs allé dans la ferme d'Emmanuel Hardy à Prédanjou. Ferme qui fait partie de ces circuits proposés dans le cadre de la vélo-fourchette. Et puis on va aussi nous parler, enfin c'est Mathéo d'ailleurs qui va nous parler de ses coups de cœur série avec un générique que vous connaissez bien à retrouver en fin d'émission. Et puis un pensée locale qu'on diffuse aujourd'hui, et oui, jour férié oblige jeudi, on change un petit peu notre grille et on va découvrir ce reportage autour de la régie de l'eau en Loire-Atlantique en fin d'émission. Aujourd'hui. Mais d'abord, on va faire un point sur l'actualité avec toi, Andy. Et après, Château-Gontier, c'est Mêlé du Maine qui demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Après les épisodes météorologiques violents auxquels on fait face la Mayenne, c'est Mêlé du Maine qui demande cette reconnaissance. Comme Château-Gontier, la municipalité a déposé un dossier pour obtenir l'état de catastrophe naturelle.
Un appel à solidarité pour les agriculteurs après justement les intempéries de vendredi.
Et oui, comme je viens de le dire, c'est le sud Mayenne surtout qui a été frappé par des pluies et des vents violents et le sud-est mayennais, lui, a subi des tempêtes de grêle. Depuis vendredi dernier, les agriculteurs recensent les dégâts plus ou moins importants. La FDSEA et les jeunes agriculteurs appellent à la suite de ces événements au don de semences de maïs en faveur des agriculteurs touchés. Si vous voulez donner, il vous suffit d'envoyer un mail à l'adresse contact@fdsea53.fr en inscrivant votre nom, votre adresse et la quantité de semences que vous souhaitez fournir.
Le proviseur du lycée Victor Hugo à Château-Gontier porte plainte.
Pour menace de mort et atteinte à la sécurité, c'est un des professeurs de physique chimie qui a été visé début avril par des menaces et des insultes inscrites dans les toilettes de l'établissement. Le ou les responsables des inscriptions sont toujours recherchés activement et l'enquête de la gendarmerie est toujours en cours.
Un accident de la route ce matin à Lignières-Orgères dans le nord de la Mayenne.
À 8h ce matin, au lieu dit Cadin, une jeune femme de 21 ans est restée bloquée dans sa voiture sur le flanc jusqu'à l'intervention des pompiers. Elle a été emmenée au centre hospitalier d'Alençon. La circulation est depuis revenue à la normale. Puis un autre accident hier soir, toujours dans le nord Mayenne, à Pré-en-Paille. Un camion s'est encastré sous le toit d'une station-service. Aucun blessé à signaler, heureusement, selon les secours. La station-service devra rester fermée jusqu'au passage d'un expert.
Une campagne régionale de promotion de la santé sexuelle est organisée.
Par le corps VIH Pays de la Loire et l'ARS Pays de la Loire à destination des jeunes. Elle a pour objectif de faire bouger les esprits, libérer la parole sur la santé sexuelle et inciter au dépistage des IST, du VIH et des hépatites. Elle a déjà commencé depuis une semaine et elle va durer jusqu'au 17 juin. Pour connaître toutes les animations, vous pouvez vous rendre sur le site irl-santabou.fr.
Et puis à tout foyer, une solution de compostage.
C'est la politique que veut mener Laval Agglomération. Elle s'est concrétisée par la mise en place d'un soutien financier aux familles désireuses de s'équiper d'un composteur et la mise à disposition est devenue gratuite depuis automne 2021. L'objectif est de passer de 13% à 50% de foyers équipés d'une solution de compostage à l'horizon 2026. Si vous êtes intéressé, vous pouvez réserver votre matériel de compostage sur le site de Laval Agglomération.
Et puis on parle des différents impacts de la montée en Ligue 2 des Tangos.
Le Stade Lavallois en Ligue 2 s'est fait depuis presque un mois maintenant. On a vu que certains joueurs ont déjà prolongé, comme Jimmy Roy par exemple. On revient aujourd'hui avec Laurent Léry, le président du club, sur quels impacts sportifs mais aussi financiers aura cette montée en Ligue 2 pour le club lavallois.
Je crois que on a inscrit un projet pour effectivement replacer le Stade Lavallois en Ligue 2. Hein, donc c'est pour moi, je suis très fier de manager tout ça, d'animer tout ça. Hein, mais c'est un travail collectif hein, qui a été réalisé avec évidemment les joueurs, que c'est eux les acteurs, mais aussi le staff et puis les partenaires, les actionnaires, les institutionnels. Je crois qu'on est tous alignés et on vit à l'unisson. Donc voilà, c'est top. Oui, alors dans l'organisation, on a toute une programmation d'évolution, de structuration du club. J'avais dit dans mon projet que c'était bien de remonter, mais il fallait rester. Pour rester, il faut structurer un peu plus. Je vais réouvrir le centre de formation. Alors, il faudra un an pour que ce centre de formation soit réhomologué par la Fédération française de football. Hein, donc ça, on va travailler pour, en espérant retrouver le statut qu'on avait. C'est pas gagné, hein, il faut faire des investissements. Mais en tout cas, c'est pas. En fait, c'est un projet dans la durée. Donc tout ça va se mettre en place au fur et à mesure, mais vous pouvez compter sur moi pour porter ça dans la durée et puis qu'on retrouve et qu'on reste surtout. Puis après, on peut rêver. Après, ce qui est certain, hein, c'est que pour exister aujourd'hui dans un championnat de Ligue 2, on avait par le passé, et j'en faisais partie, un budget qui était un peu faible, hein, qui était le 18e budget à peu près de Ligue 2. Et à un moment donné, bah, quand on vit au fil du rasoir, bah, on tombe. Hein, et l'objectif, c'est d'apporter à peu près 2 millions de plus pour construire ce projet. Et donc là, je ne vais pas solliciter particulièrement un partenaire, mais je vais demander à tous les partenaires hein, de s'impliquer, comme on le fait, travailler en équipe. Hein, la phrase toute faite, c'est tout seul, on va plus vite et ensemble, on va plus loin. J'étudie toute possibilité. Par contre, il faut que ce soit dans le respect des valeurs, hein, la bienveillance, hein, qu'on soit dans un partenariat de durée, hein, puisque la Mayenne, c'est quelque chose qui dure. Voilà, donc ce sera étudié d'une manière, comme je dis toujours, un peu, moi j'ai le mot à la bouche, la RSS2E, hein, sociétalement responsable, socialement responsable, économiquement responsable hein, et environnementalement responsable. Hein, c'est ça qui m'anime et c'est comme ça que je veux construire le Stade Lavallois. Moi je veux qu'on travaille collectivement hein, et donc je vais réunir tous les partenaires dans très peu de temps pour qu'on puisse réfléchir à ça et leur demander un petit effort supplémentaire pour continuer de rêver. Voilà. Ça n'a pas de prix, ça. Évidemment que l'essentiel de ces moyens supplémentaires iront à l'équipe. Alors, ils iront pas seulement à l'équipe. Mais par contre, comme je l'avais dit il y a un an, hein, j'ai recruté des joueurs avec des contrats de 2 ans plus un pour 2 tiers de l'effectif et tout cela reste puisqu'ils s'inscrivaient dans le projet. Et en fait, j'ai pas une grosse équipe à reconstruire. Travailler avec ceux qui sont là, qui se sont installés, qui ont accepté de vivre l'aventure, et puis gaper, améliorer. Il y avait une option nationale, il y avait une option Ligue 2, ben je vais prendre l'option Ligue 2 sur 7-8 joueurs. On a le calendrier Ligue 2, mais on n'a pas les horaires, mais on jouera le samedi. Alors 16h, 19h, hein, en fait, c'est pas encore totalement. Alors il y a tous hein, les sujets de droit télé, et je crois que la Ligue n'a pas encore tranché, mais ce sera de toute façon le samedi soir.
Et plus qu'à attendre le mercato estival pour connaître le nom des nouvelles recrues qui évolueront le samedi soir sous les couleurs Tango.
Eh oui, hein, ça va arriver vite puisque je crois que les premiers matchs sont dès la fin juillet ou début août. J'ai plus le calendrier exact sous les yeux. En tout cas, on va parler d'autres sportifs. Hein. En tout cas, c'est pas forcément le sport d'ailleurs qui est le plus important dans la vélo-fourchette puisqu'il y a le vélo, mais aussi et surtout la visite des fermes du territoire et la dégustation potentielle hein, qui peut motiver des fromages et autres cidres et bières qui seront proposés par le Sivin Bio. C'est la 4e édition et on en parle juste. Juste après Paradigme de la femme. Courir, de pleurer. D'écouter Paradigme de la femme dans la JT du local sur l'autre radio. Et tout de suite, on va passer à un programme plutôt agréable, hein. Vélo, visite de ferme et dégustation de fromage. C'est celui de la quatrième vélo fourchette organisée par le Sylvain Bio 53 jusqu'à mi-juin, avec plusieurs parcours proposés. C'est l'occasion de découvrir les producteurs du territoire et leur fromage notamment. Présent depuis le début, Emmanuel Hardy nous a accueillis sur sa ferme d'élevage caprin à Pré d'Anjou.
Bonjour, je m'appelle Emmanuel Hardy, je suis installé éleveur de chèvres sur la commune de Pré d'Anjou avec Sophie depuis 2011, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Et on transforme notre lait en fromage qu'on vend sur les marchés, sur quelques marchés locaux et magasins locaux, cantines locales et puis autres lieux voilà, divers.
Avec du fromage, forcément, on l'entend, c'est des chèvres derrière nous. Il y a combien de chèvres ici?
Donc, nous avons une soixantaine de chèvres laitières. La suite derrière, à savoir les chevrettes pour le renouvellement. Bah, actuellement, on a quelques chevreaux d'engraissement qu'on garde un petit peu pour la vente de viande. Et puis, on a un petit peu plus loin, on a quelques boucs aussi pour la reproduction. Lors de la vélo fourchette, nous on a toujours plaisir à accueillir les visiteurs pour montrer notre ferme, expliquer voilà, notre travail, nos motivations et puis faire découvrir nos produits, notre passion pour notre métier qui est pas facile tous les jours parce que c'est beaucoup de travail, mais c'est vrai qu'on aime ce qu'on fait malgré tout et on est toujours content de partager notre expérience et notre savoir-faire aux visiteurs.
C'est pas la première fois que vous participez à la vélo fourchette. Comment s'étaient passés les différents échanges la dernière fois?
Alors c'est la quatrième, la vélo fourchette, oui, c'est la quatrième édition. Alors pour en parler un petit peu, les premières années, c'était une initiative des producteurs fromagers de la Mayenne qui étaient réunis au sein d'un groupe au sein du Sylvain Bio 53, qui est l'organisateur de la vélo fourchette. Petit à petit, finalement, on a greffé d'autres producteurs à l'événement. Donc là, cette année, pour la quatrième édition, je crois qu'il y a une brasserie et une ferme cidricole qui participent. Et donc l'idée, c'est de proposer plusieurs boucles à vélo. On a dû participer deux années déjà, et on voit venir sur les fermes des familles avec des jeunes enfants. Donc c'est pas des circuits très difficiles. En Mayenne, ça reste assez plat. Enfin, je vais pas m'avancer trop sur le relief parce qu'il y a quand même des boucles dans le nord Mayenne où c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour les jeunes. Mais chez nous, dans le sud de Mayenne, là, sur Pré d'Anjou, entre Chemazé et Pré d'Anjou, puisque l'autre ferme est sur Chemazé, ça reste assez facile. Donc accessible à des jeunes enfants, enfin, une dizaine d'années, quoi, je dirais, accompagnés avec des adultes, bien sûr. Mais il y a quelques familles, après, sinon c'est des... Ouais, enfin, c'est ouvert à tout le monde, donc après... Il y a des gens motivés, des cyclistes avertis qui font la route des fois de chez eux pour venir sur la première ferme, qui rentrent chez eux le soir après la deuxième ferme. Il y a des gens aussi qui anticipent un petit peu, qui font du camping la veille, qui repartent avec la tente de camping sur le vélo. Tout est possible. Après, faut juste s'inscrire sur le site internet du Sylvain Bio. Et puis vous avez tous les détails pratiques avec les circuits qui sont bien présentés. C'est un bon petit moment sympathique pour découvrir la campagne mayonnaise et puis les fermes mayonnaises. On invite aussi le beau temps.
Vous disiez être installé depuis un peu plus de 10 ans maintenant. C'était votre projet à tous les deux, du coup, d'avoir un élevage de chèvres et directement de le transformer en fromage pour l'essentiel, même s'il y a un petit peu de viande à côté aussi.
Alors, le projet initialement, c'était plus mon projet. Le projet Caprin, c'était plus mon projet à moi. Moi, j'ai suivi une formation avant l'installation pour m'orienter vers cette production. Par contre, mon épouse, Sophie, elle, quand on s'est rencontrés, moi j'avais parlé de mon projet d'installation. Elle était fille d'agriculteur, donc elle savait ce que c'était. Et elle avait, on était d'accord sur ce projet-là de vie et de d'installation sur une ferme. Donc rapidement, elle a participé au projet et puis aux activités de la ferme.
Ça s'est fait comment? Puisque donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une soixantaine de chèvres. Et même plus que ça, j'imagine qu'au début, pour constituer le troupeau, c'est pas évident. Comment ça se passe?
Pour constituer le troupeau, effectivement, on est arrivé sur la ferme où il y avait des vaches laitières avant, qui avaient été vendues avant notre arrivée. Donc il n'y avait plus d'animaux quand on est arrivé sur la ferme. Donc nous avons acheté des chevrettes qu'on avait réservées à l'avance chez deux éleveurs dans le Maine-et-Loire. Et donc les chevrettes sont arrivées au mois de septembre, donc elles avaient 7 mois. Donc elles sont arrivées avec deux boucs. On avait dû acheter 45 chevrettes et deux boucs. On a mis les boucs au mois de septembre et on a eu des chevreaux qui sont arrivés début mars. Et donc ça nous a laissé 5 mois pour faire les travaux, installer la fromagerie, revoir un petit peu l'agencement des bâtiments qui n'était pas adapté pour les chèvres. Donc il a fallu faire quelques aménagements. Ça a été pas mal de boulot l'année de l'installation. On a une clientèle qui apprécie nos fromages, donc on les remercie d'ailleurs, parce que c'est grâce à eux si on est toujours là. Nous, on fait la traite le matin et le soir du mois de mars jusqu'à fin juin environ. Et à partir de fin juin, les chèvres produisent un peu moins de lait, donc on passe en monotraite. Et on choisit de faire la traite plutôt le matin. Donc là, ça nous soulage un petit peu au niveau du travail. Et globalement, on perd peut-être 10 à 15% de production, mais on gagne en qualité de vie quand même. Et le fromage, on le fait toujours le matin. Donc quand on fait deux traites par jour, on refroidit le lait du soir et on rajoute le lait du matin. Et du coup, le lait est transformé tout de suite le matin, soit en fromage type bûche crottin, soit en tome de chèvre. Un temps de fabrication différent, un temps d'affinage différent. Après, c'est vrai que la tome de chèvre, donc on a une cave spécifique pour affiner les tomes de chèvre. Et dès le départ du projet, on avait choisi de faire de la tome de chèvre parce qu'on n'était pas sûr de découler tous nos fromages comme voulu. Et du coup, la tome de chèvre, ça permet de stocker un petit peu du lait et de reporter la vente à plus tard, quoi. On peut affiner une tome de 3 semaines jusqu'à 1 an. Donc ça permet de stocker dans les limites de la place disponible dans la cave, quoi. Après, globalement, en magasin, on met plutôt des fromages relativement frais, pas trop affinés, avec peu de moisissures, parce que on évite les mauvaises surprises ou des retours parfois de personnes qui connaissent mal le fromage et qui nous disent « Ah, il y a des moisissures sur le fromage, je ne sais pas si je peux le manger. » Ou les vendeurs aussi dans les magasins qui nous disent « Ouais, vos fromages, là, il y a quelques taches dessus, je ne sais pas si je peux les vendre. » Donc c'est vrai qu'on a eu des remarques comme ça. Donc on explique toujours que c'est normal et qu'un fromage qui est un petit peu taché avec des moisissures, c'est normal. C'est l'affinage du fromage, mais en termes de présentation, voilà, ça peut perturber certains consommateurs. Donc là, c'est pour les magasins, on essaye d'avoir une vente de produits plutôt frais, assez réguliers, homogènes. Et puis sur les marchés, on vend plutôt des fromages affinés et qui plaisent aussi. Enfin, voilà, les gens sur le marché, en plus, on peut communiquer sur notre produit, donc c'est plus facile, on peut faire goûter. Et une fois qu'on a goûté, en général, on y revient. Et la vélo fourchette, on va être obligé de faire goûter, hein, c'est le passage obligé de la visite. Donc pour présenter un petit peu la visite, donc on accueille les cyclistes sur la ferme, on se présente, ensuite on fait un petit tour des bâtiments, on fait visiter l'installation, la salle de traite, les espaces pour les chèvres, les chevrettes, pour les chevreaux. Et ensuite au mois de juin, on fait souvent un petit tour dans les champs, parce qu'il y a des choses à voir dans les champs. À la fois les cultures, les plantations de haies qu'on a pu faire depuis le début là. On peut être amené en fin d'après-midi avant le départ à aller chercher les chèvres pour les ramener au bâtiment. Les chèvres qui sont au pâturage, on les ramène. Ça fait une petite animation. Et puis les enfants, s'il y en a, et les grands-enfants aiment bien aussi voir les chèvres revenir. Après la visite, on n'a pas forcément répondu à toutes les questions. Donc, ça suscite des questions, même la visite. Donc après, de là à dire qu'il y a des questions incongrues ou étranges, non. Toutes les questions sont bonnes à prendre. Après, c'est vrai que parfois, on constate que des fois, c'est bien de faire des visites comme ça parce que les gens sont éloignés un petit peu du monde agricole, quoi, de plus en plus. Donc, ceux qui participent à la vélo-fourchette, peut-être un peu moins parce qu'ils sont peut-être un peu plus sensibles. C'est bien de pouvoir montrer comment on produit notre alimentation. On en parle de plus en plus de bien manger et nous on défend ça, hein, c'est l'agriculture de qualité, l'alimentation de qualité et qui respecte l'animal et puis l'environnement en fait. Depuis 2 ans, on a essayé de faire d'intégrer le réseau paysan de nature, donc avec Mayenne Nature Environnement, parce qu'on pense qu'on a aussi des améliorations à apporter sur nos pratiques pour améliorer la biodiversité et puis essayer de trouver un équilibre entre l'agronomie, les pratiques agronomiques et la biodiversité et la protection de l'environnement, quoi. La plantation de haies, c'était pour rebocager un petit peu notre exploitation. Donc on a 35 hectares et on trouvait qu'il y avait des parcelles qui étaient beaucoup trop grandes. Et on a voulu diviser un petit peu les parcelles. Et puis on constate aussi que les étés ou même les printemps sont de plus en plus chauds. Et nos chèvres, quand elles sont dehors et qu'il n'y a aucun arbre, elles souffrent terriblement de la chaleur. Donc on replante et on a d'autres projets de plantation encore pour l'avenir. Avec ce qu'on voit ou ce qu'on entend aujourd'hui, on se dit que planter des arbres, c'est un petit peu aussi planter pour l'avenir. Parce que c'est un petit peu urgent de le faire, je pense. Ce qui pourrait peut-être changer, là, c'est qu'on a pris l'initiative cette année de rechercher un apprenti pour nous soulager un peu dans le travail et puis aussi apporter notre expérience. Mais c'est quand même aussi pour nous soulager un petit peu dans le travail parce qu'on trouve que... On n'a pas assez de temps à consacrer à nos enfants qui grandissent et parfois c'est assez frustrant de toujours être au travail et de pas passer de temps avec les enfants qui grandissent et qui ont de plus en plus de besoins. Enfin, on voit bien à l'adolescence qui arrive, finalement, ça c'est plus demandeur que des jeunes enfants. Donc voilà, donc on aimerait bien trouver un apprenti. Après, nous, on a plutôt ciblé les écoles qui proposent des formations sur 1 an en certificat de spécialisation caprin. On est installé en GAEC à 2 et on a 2 salariés à temps partiel, donc ça fait à peu près un temps plein pour les deux personnes, qui travaillent plutôt sur la partie fromagerie et de temps en temps, plutôt un dimanche par mois ou 2-3 jours dans la semaine. Si on veut partir un week-end, on a une salariée qui fait la traite aussi. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup de mal à partir en période de production. On essaye de prendre une semaine de vacances au mois de janvier, enfin plutôt février, pendant les vacances scolaires de février. Donc ça fait du bien de partir. Et puis après, les chevaux, je le disais au début, débarquent sur la ferme fin février, début mars. Et puis après, on est à fond jusqu'au semi d'automne, jusqu'à début octobre, quoi, en gros. Avec une petite pause estivale au mois d'août. Ce qui nous plaît, enfin moi je ne vais pas parler pour ma femme, mais non, moi ce qui me plaît, moi c'est la diversité dans le travail, c'est tous les projets à long terme qu'on peut avoir aussi sur une ferme. C'est la liberté de... nous, on est en vente directe, donc on a une liberté de création aussi de nouveaux produits, de création de petites communications. On a une certaine liberté de ce côté-là. On est sur place aussi pour travailler, on n'a pas la route à faire. Dans une ancienne vie, on était salarié, on avait 3/4 d'heure de route à faire le matin, 3/4 d'heure le soir pour revenir. On a un cadre de vie quand même agréable. On a cette souplesse, cette liberté qui est agréable, qui est plutôt positive et on s'ennuie jamais. Et puis on rencontre aussi des gens par le fait de la vente directe. Moi, je voulais pas être que producteur, je voulais aussi pouvoir vendre mon produit en direct. parce que j'avais besoin de relations aussi avec l'extérieur, avec d'autres gens. Et de faire de l'accueil, voilà, on y tient aussi à faire de l'accueil parce que c'est agréable de partager ce qu'on fait quand on aime ce qu'on fait et qu'on pense que ce qu'on fait a du sens.
Et d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'est organisée une vente à la ferme tous les jeudis entre 17h et 19h. C'est d'ailleurs surtout pour les habitués, mais c'est évidemment ouvert à tous. Et il reste encore 5 boucles dans cette vélo-fourchette, et notamment celle d'Emmanuel Hardy. La prochaine, ce sera jeudi à bout du Bourgneuf-la-Forêt à la Brulatte. 16 km vous attendent, mais vous pouvez aussi vous inscrire pour celle-ci et pour les autres sur le site sivambio53.fr.
Et Mathéo, tout de suite, il va nous conseiller quelques séries à regarder, mais juste avant, on écoute High de Kendrick Lamar. This is a world, this is a world premiere. This is a world premiere. I done been through a whole lot. Trial, tribulation, but I know God. Satan wanna put me in a bow tie. Pray that the holy water don't go dry, yeah, yeah. As I look around me, so many motherfuckers wanna tell me. But enemy gon' never drown me. In front of a dirty double mirror, they found me. And I love myself. The world is a ghetto, big guns and dicky time. What you gon' do? Lift up your head and keep moving. Or let the paranoia haunt you. Peace to fashion police, I wear my heart on my sleeve, let the runway start. You know the miserable, do love company. What do you want from me and my scars? Everybody lack confidence, everybody lack confidence. How many times my potential was anonymous? How many times the city making me promises? So I promise this, I love myself. The world is a ghetto, big guns and dicky signs. I love myself. But they can do what they want whenever they want. Police and a rock on a corner and a line full of fiend and a bottle full of lean and a model on a scheme, yep. These days of frustration keep y'all on tuck in rotation. I duck these cold faces, post up, feed 5-4 for basis. Dreams are reality's peace. Blow steam in the face of the beast. The sky can fall down, the wind can cry now. The strong in me, I still smile. I love myself. The world is a ghetto, big guns and dicky signs. I love myself. But they can do what they want whenever they want.
C'était Kendrick Lamar dans la JT du local avec son titre High, évidemment, qu'on vient d'entendre. Vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio et on va passer à la chronique série de Mathéo. Salut Mathéo.
Salut Marie.
Et alors aujourd'hui, tu vas nous présenter des séries et programme à ne surtout pas rater sur les plateformes de streaming. Alors, on parle de quel programme, Mathéo ?
Alors là, on commence avec Insiders. C'est une télé-réalité espagnole, mais attention, c'est vraiment différent des programmes qu'on voit à la télé. Alors, le concept, c'est une dizaine de candidats qui pensent passer un casting pour une télé-réalité sans être filmés, mais ils le sont. Ils doivent aussi faire des épreuves qui sont, on va se le dire, immorales, pour tester s'ils sont prêts à tout pour intégrer le programme. Bon, heureusement, ces épreuves sont fausses. Par exemple, les producteurs font croire qu'ils tuent un animal alors que c'est une peluche, ou bien ils doivent faire du mal à un des candidats qui, en vrai, fait semblant d'avoir mal car ils sont complices de la production. Les candidats sont éliminés du casting s'ils ne sont pas assez investis dans le programme. Le plus prêt à tout est le gagnant de l'émission et remporte 100 000 euros. Donc j'ai beaucoup apprécié regarder les épisodes, même si parfois c'est quand même assez dur à voir, surtout lors des épreuves. Le but, c'est aussi de dénoncer les travers de la télé-réalité et des candidats qui sont prêts à trahir leur morale pour passer à la télé. Alors je vous conseille d'aller le regarder car ce programme est disponible sur Netflix depuis jeudi dernier.
Alors, quel programme d'autre nous conseilles-tu, Mathéo ?
Alors, vous connaissez peut-être La Flamme, pas la parodie délirante du Bachelor avec Jonathan Cohen. Donc, il incarne Marc, le Bachelor qui a 10 femmes qui se battent pour lui à chaque épisode. Et ben, la série très drôle fait son retour avec, cette fois-ci, Le Flambeau.
Je pense qu'on a tous reconnu là pour le coup le générique, on parle de Koh-Lanta là évidemment.
Oui c'est ça. Et ouais c'est le générique de... Et ouais c'est une parodie de Koh-Lanta. Donc 14 aventuriers vont sur l'île de Chupacabra pour gagner la somme folle de 450 euros. On retrouve Marc, les prétendantes et de nouveaux personnages encore plus délirants que ceux de La Flamme. Si vous avez adoré la première saison, mais alors là vous allez encore plus rigoler. L'humour décalé comme celui-là m'a vraiment fait rire, alors je vous conseille d'aller regarder. En plus, j'ai regardé hier soir, j'étais mort de rire pendant tout le long. Donc allez regarder ça, c'est disponible depuis hier soir sur MyCanal et c'est diffusé tous les lundis soirs sur Canal+.
Et puis un troisième conseil que tu peux nous donner, Mathéo ?
Ouais Marie, et je vous propose de voir Heartstopper.
Alors qu'est-ce que c'est cette série ?
Donc c'est une série britannique qui nous montre le jeune Charlie, un introverti gay qui rencontre Nick, un rugbyman populaire pensant être hétéro. Pour Charlie, c'est le coup de foudre. Puis avec le temps, Nick et Charlie commencent à nouer une amitié malgré les réticences de leurs amis. Nick commence à se rendre compte qu'il a des sentiments pour Charlie et fera tout pour se rapprocher de lui, jusqu'à se mettre à dos ses amis. J'ai vraiment adoré cette série car c'est vraiment super facile à regarder, c'est frais, et puis c'est vraiment super mignon cette relation heureuse entre les deux personnages. Et puis je trouve que la représentation de la communauté LGBTQ est très très bien faite car le fait d'être gay est montré comme normal dans la série, ce qui est vraiment super. Donc c'est sur Netflix et ça fait un carton depuis sa sortie, donc allez voir, n'hésitez pas.
Eh ben merci beaucoup Mathéo pour ces trois conseils, hein, trois conseils de séries bien différentes les unes des autres, mais comme ça qui peuvent forcément, il y en a au moins une qui vous plaît dans les trois dont on a parlé. Merci beaucoup Mathéo.
Eh ben merci.
Et on va continuer avec une deuxième petite chronique, puisque oui, jour férié oblige, on ne peut pas passer le passé local jeudi. Eh ben ça change rien, on va le passer aujourd'hui et on se rend aujourd'hui en Loire-Atlantique, département placé en vigilance eau potable de niveau 1 depuis le 4 mai dernier. Et pour pallier à cette problématique, ce manque d'eau, la régie publique de Nantes Métropole s'occupe de l'assainissement et du traitement de ces eaux qui sont ensuite redistribuées dans les 24 communes de la ville. Je vous propose d'écouter le reportage de Vincent Podeau pour Alternantes.
Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
Le 4 mai 2022, la Loire-Atlantique est passée en vigilance eau potable. C'est la première alerte de la saison qui s'explique par un manque de précipitations hivernales et un faible débit des cours d'eau. L'occasion de rencontrer Céline Jarron, responsable au service animation du cycle de l'eau de Nantes Métropole. Mais est-ce que l'on produit de l'eau ?
Oui, effectivement. Sur Nantes Métropole, nous produisons une grande partie de l'eau potable qui est distribuée sur nos communes, sur les communes de la métropole, au niveau de la régie publique, principalement sur un site qui est l'usine d'eau potable de La Roche. et qui permet donc de produire 80% des besoins de la collectivité pour l'usager, pour l'abonné au robinet.
D'où vient cette eau que nous buvons ?
Alors, l'eau provient directement de la Loire. Elle est prélevée dans la Loire, un peu en amont donc, de cette usine d'eau. Elle est acheminée jusqu'à l'usine de l'eau pour être traitée et pour permettre qu'elle devienne potable par un ensemble de traitements avant d'après être délivrée jusqu'au robinet des usagers. En France, de façon générale, et donc sur Nantes Métropole, l'eau est le bien alimentaire le plus contrôlé. Donc, il y a à chaque étape un ensemble d'analyses, de mesures qui sont réalisées et par la régie qui traite cette eau. Et après, il y a également des contrôles réglementaires de l'État pour suivre la qualité de cette eau au fil de son cheminement jusqu'au robinet de l'usager.
Cette ressource locale provient de par-dessus nos têtes.
Alors, si on prend le cycle de l'eau, effectivement, à un moment, elle est passée par la pluie, elle est arrivée, elle a ruisselé, elle est arrivée jusqu'à l'ensemble de ces cours d'eau qui ont formé après la Loire pour arriver, effectivement, jusqu'à l'usine.
Quand même, nous sommes à Nantes Métropole, ça concerne 24 communes. C'est près de 660 000 habitants. En termes de budget, ça représente combien ?
Donc sur la partie eau potable, pour la période de 2021 à 2026, on est sur un budget de 172 millions d'euros d'investissement pour pouvoir garantir ce service public, donc de délivrer une eau en qualité et en quantité suffisante.
Pensée locale, un enjeu de société.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur le prix au mètre cube ?
Aujourd'hui, si on prend, donc là, on est en 2022, au 1er janvier, donc c'est le cas pour les 24 communes, hein. Effectivement, le prix est le même, donc c'est 3,58 € du mètre cube. Ce calcul est fait sur la base d'une facture de 120 mètres cubes, c'est-à-dire une facture moyenne annuelle de 4 personnes. On consomme à peu près 30 mètres cubes par personne, c'est la moyenne un peu en France, par an. Du coup, on est à 3,58, donc ça comprend une part d'abonnement. On a une partie consommation d'eau potable, mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la facture d'eau, quand on paye ce prix de l'eau, on paye aussi la partie assainissement, c'est-à-dire quand on traite les eaux qui sortent de chez nous, les eaux sales, les eaux usées, et également après des redevances qui sont reversées à l'État via les agences de l'eau, qui permettent de moderniser les infrastructures, de préserver le milieu naturel. Donc ça, c'est les agences de l'eau qui reversent après, par des subventions, ces redevances collectées dans le prix de l'eau.
Donc ce service de l'eau comprend aussi des opérateurs privés, et Nantes Métropole garantit un prix unique pour tous les abonnés.
Oui, alors c'est une spécificité un peu, on va dire, à la nantaise de Nantes Métropole, c'est qu'on est sur une gestion mixte dans le cas de l'eau sur notre territoire, sur nos 24 communes. Donc on a un opérateur public, qui est donc la régie publique, qui notamment donc, gère l'usine d'eau, donc la production de l'eau, et une partie de la distribution de cette eau sur les communes qui la concernent, ce qui représente à peu près 60% du territoire des abonnés. Et on a un opérateur privé, qui est actuellement Veolia, et qui donc s'occupe de distribuer l'eau sur le reste, sur les 40% restants, et donc qui assure tout l'entretien des réseaux également et la distribution sur les réseaux. L'intérêt de cette mixité, c'est d'avoir du coup, avec un prix donc effectivement équivalent pour les 24 communes, donc pas de différence qu'on soit opérateur public ou opérateur privé, régie ou privé. L'intérêt, c'est d'avoir la connaissance en interne, avec le service public et la régie publique. Le côté innovant et recherche qu'on n'aurait pas forcément la capacité en interne grâce à l'opérateur privé qui, lui, a cette capacité de développement, de recherche et donc de nouvelles innovations pour aller toujours plus loin et essayer d'améliorer toujours le service qu'on va rendre.
Madame Jarron, merci beaucoup.
Merci.
Un reportage de Vincent Podeau pour Alternante FM.
C'était Pensée locale, un enjeu de société. Une émission de la FRAP, la Fédération des radios associatives en Pays de la Loire.
Reportage à retrouver comme d'habitude sur notre site internet l'autreradio.fr. Puisque oui, ça y est, hein, c'est déjà la fin de notre émission L'Agité du local pour ce mardi. Merci Andy, on se dit à demain.
Merci à toi et puis oui, à demain, à demain.
On se retrouve demain à 12h15 comme d'habitude avec aussi évidemment des émissions qui se poursuivent à l'antenne puisqu'à 19h il y aura les agités du mois, c'est un peu le meilleur des feuilletons de cette émission en toute modestie évidemment. À 20h retrouvez The Voice of Cassandre suivi à 21h de Frères de Chaussures. Nous on se retrouve demain, je vous souhaite une très belle journée.